Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Accent d'Europe sur l'une des routes des demandeurs d'asile aujourd'hui, de la Turquie où l'immense majorité des Syriens qui ont fui la guerre ont trouvé refuge, en passant par la Grèce, les Balkans, le col de Briançon entre l'Italie et la France et Calais face aux côtes britanniques, un trajet semé de dangers, de barbelés, de contrôles, de refoulements aussi. Première étape, les îles grecques. Conséquence de l'accord signé avec la Turquie, chargé par l'Union européenne d'empêcher les départs de bateaux, les arrivées par la mer ont baissé de 85% l'an dernier. La pandémie a aussi compliqué les départs, mais pour ceux qui ont malgré tout tenté leur chance, la Grèce est désormais intraitable. Athènes est accusée de les renvoyer au mépris du droit international. Les explications de Joël Bronner.
Bien qu'illégal au regard du droit international et de la Convention de Genève et officiellement nié par Athènes qui parle de fake news, les opérations de refoulement de demandeurs d'asile se multiplient depuis près d'un an à la frontière entre Grèce et Turquie, en particulier en mer au large des côtes grecques. Au cours des trois premiers mois de l'année, l'ONG Mare Liberum a ainsi répertorié 55 cas de refoulement collectif en mer Égée, des pushbacks qui concernent près de 1500 personnes au total. Près d'un tiers d'entre elles se sont retrouvées repoussées et abandonnées dans les eaux turques sur des canots de sauvetage, souvent de petits bateaux gonflables rouges appelés dinghy. Mi-avril encore, 46 demandeurs d'asile ont été refoulés au large de l'île de Lesbos avant d'être pris en charge par les gardes-côtes turcs. En février, là aussi à Lesbos, 13 migrants dont 5 enfants ont accosté puis rejoint le camp de Mégalatherma en soirée. Sous prétexte d'un test Covid, les autorités du camp les ont placés dans un préfabriqué isolé où ils ont ensuite été attaqués et volés par des hommes en uniforme, puis transférés de force sur la mer dans un canot de sauvetage. Direction la Turquie.
Et dans les Balkans, les frontières aussi se ferment. Pour contourner la Croatie, de plus en plus d'exilés tentent depuis quelques mois de passer par la Serbie, puis par la Roumanie, pour rejoindre l'Europe du Nord et de l'Ouest. Un chemin plus long, plus risqué aussi. Simon Rico a rencontré ses candidats à l'asile sur la route.
Il est 18h, le jour commence à baisser sur la plaine de Vojvodine. Un groupe d'une cinquantaine de jeunes hommes marche d'un pas décidé le long de la petite route de campagne qui relie les villages serbes de Majdan et Rabé. À quelques kilomètres de là, deux frontières de l'Union européenne, celle de la Hongrie, barrée d'une immense clôture barbelée, et celle de la Roumanie, moins surveillée. Ahmed vient d'Algérie. Comme les autres, il espère enfin réussir ici ce que les migrants surnomment le game, échapper à la police et entrer dans l'UE.
Oh, c'est difficile, la Bosnie, la Croatie, l'armée cagoulée. Elle prend l'argent, téléphone et tout. Il y a des gens à l'hôpital, coma. Même des Marocains, deux Marocains morts. C'est par la Roumanie après la Hongrie. Il y a un triangle. La Hongrie, bien que la Bosnie, la Croatie.
Le triangle dont parle Ahmed, c'est cette nouvelle route migratoire à trois côtés qui permet de rejoindre la Hongrie, l'entrée de l'espace Schengen, depuis la Serbie, en faisant un crochet par la Roumanie. Depuis l'automne dernier, le nombre de passages y est en forte hausse. Les demandes d'asile ont ainsi été multipliées par 3 en Roumanie sur les derniers mois de 2020. Anan a fui la Syrie avec son mari et son neveu, dont les parents ont été tués dans les combats. Cela fait 6 mois qu'ils sont bloqués en Serbie, car même ici, c'est très difficile de passer.
On a essayé toutes les routes, presque. Ouais. On a passé la rivière Danube à la Roumanie, 2 fois. Ici, à Triangle, on est passé 2 fois. Et les frontières de Croatie à Hongrie, on a essayé 7 fois. Ça n'a pas marché.
Anan s'est blessé en franchissant la double clôture de barbelés haute de 3 mètres qui barre l'accès de la Hongrie. Elle a chuté sur le dos et n'a jamais été soignée. Depuis, la jeune femme souffre dès qu'elle marche. Des traumatismes comme le sien, la mission de Médecins sans frontières basée en Serbie en constate de plus en plus, comme le raconte Jérémy Ristor, son coordinateur.
Ces 2 derniers mois, donc, on a eu plus de 330 consultations et sur ces consultations, 30% de nos bénéficiaires sont traités pour des traumatismes. Une moitié sont des traumatismes violents, donc des blessures qui correspondent à des actes de violence intentionnelle comme des ecchymoses, des fractures, des plaies ouvertes parfois. Ce sont des blessures dont l'immense majorité est perpétrée par les gardes frontières lors de refoulements ou de pushbacks. Et on a une deuxième moitié qui sont des traumatismes qu'on pourrait qualifier d'accidentels. Donc ce sont des fractures, des entorses liées à des chutes ou des plaies dues aux barbelés. Et qui sont la conséquence directe des travaux de sécurisation des frontières que nous constatons dans toute la région depuis quelques années.
Médecins sans frontières intervient sur la route des Balkans depuis 2013, mais l'année dernière, l'ONG a décidé de se concentrer sur la prise en charge des victimes de violences qui ne cessent d'augmenter. Les exilés doivent aussi faire face à la progression du racisme et de la xénophobie des populations locales à leur égard. Avec son collectif Click Active, basé en Serbie, Vuk Vucic tente de leur apporter un soutien juridique et psychosocial.
Le discours a changé depuis 2017. On ne parle plus de réfugiés, mais de migrants économiques venus pour islamiser la Serbie et l'Europe. Et l'opinion publique s'est brutalement retournée. Il y a un an et demi, on a même assisté à la montée en puissance de groupes d'extrême droite, avec des milices citoyennes qui se sont mises à patrouiller, notamment en prétendant vouloir nettoyer les parcs publics des détritus. Quant aux médias, ils répandent plein de fake news.
Malgré les obstacles, Anan, son mari et leur neveu de 11 ans sont prêts à tout pour rejoindre leurs proches déjà installés en Allemagne, près de Stuttgart. Ils ont traversé clandestinement la Turquie, la Grèce et la Macédoine du Nord avant d'échouer en Serbie. Un long périple de 9 mois qui leur a coûté plus de 16 000 euros, notamment pour payer les passeurs.
C'est dur, vraiment c'est dur, mais on n'a pas le choix. Mon mari il était soldat là-bas, à la Syrie. Il est parti avec son arme, donc il est recherché là-bas. Alors c'est difficile de rentrer chez nous, c'est impossible. C'est impossible, parce qu'ils vont le condamner à mort, lui.
Qu'importe la hauteur des murs placés sur leur route et la terrible répression policière, les exilés du nord de la Serbie finiront tôt ou tard par passer. Comme le regrettent les humanitaires, la politique ultra-sécuritaire de l'Union européenne ne fait qu'exacerber leur vulnérabilité face aux trafiquants et leur précarité tant pécuniaire que sanitaire. En attendant de gagner leur game, la plupart squattent les maisons délabrées, abandonnées par les Serbes, partis chercher fortune ailleurs, eux aussi.
De la Grèce à l'Italie, c'est 1700 km environ qu'a parcouru Mehmet Imani, un Iranien de 40 ans. En 2020, à Briançon, il avait été pris en charge par des citoyens bénévoles et un centre d'accueil. C'est là que Juliette Garbrand avait recueilli son témoignage.
J'ai traversé la montagne et la forêt à pied entre l'Italie et Briançon.
It's not easy.
C'est pas facile, c'est la montagne. Mais j'y suis arrivé, j'ai beaucoup marché pendant mon voyage et j'ai eu et j'ai encore beaucoup de douleurs dans les pieds. L'équipe du centre ici m'a emmené deux fois à l'hôpital. Mon pied va mieux maintenant, je suis sous traitement. Ici, c'est vraiment un centre accueillant.
Des familles, des jeunes enfants, des adolescents empruntent ce passage à haut risque par les Alpes et le col de Briançon. Le journaliste Raphaël Kraft a écrit un livre sur ce qu'il appelle « les enfants de la Clarée ». L'histoire de ces adolescents qui sont partis un jour de Guinée pour rejoindre la France et qu'ils croisent un jour de novembre 2017 avec un habitant de la région parti en maraude dans le village de Névache, juste en dessous du col de l'Échelle. Il a raconté son enquête et cette rencontre à Juliette Rangeval.
Les protagonistes de ce livre, je les rencontre tard le soir, au mois de novembre. Il y a de la neige, ils sont transit froid. Ils ont passé plusieurs mois en Italie sans véritable avenir. Après avoir subi les tortures en Libye pour certains, avoir subi la traversée de la Méditerranée, ils arrivent dans un état un petit peu difficile, quoi, psychologiquement, physiquement aussi. Mais bon, ils sont jeunes, ils sont forts. Et quand on les trouve effectivement dans la nuit, dans la neige, ils sont transit froid, ils sont en basket, ils n'ont pas pris de quoi manger, ils boivent de la neige fondue. Donc ouais, c'est assez difficile.
Et alors que vous emmeniez ces jeunes à l'abri, la gendarmerie vous arrête, vous racontez qu'elle va abandonner ensuite ces adolescents dans la montagne au niveau de la borne frontière. Et c'est suite à cette expérience, Raphaël Kraft, que vous décidez de partir en Guinée.
Et oui, je décide d'aller en Guinée pour essayer de comprendre pourquoi il y a autant de jeunes Guinéens qui quittent la Guinée. Alors, la majorité d'entre eux migrent vers les pays voisins, que ce soit notamment le Sénégal, la Gambie, et comme la plupart également des migrants africains, ils sont internes à l'Afrique. Et un certain nombre d'entre eux parviennent jusqu'en Italie ou jusqu'en Espagne, et puis finalement atteignent la France parce que la langue est plus facile pour eux. Quant aux raisons de leur départ, elles sont multiples. D'abord, il y a un système scolaire et universitaire qui est défaillant en Guinée. Il y a une volonté de la part de ces jeunes de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. Alors, ils vont parfois les faire au Maroc et d'autres en Europe. Les voies légales sont quasiment impossibles pour ces jeunes puisque les visas sont prohibitifs. Et ensuite, les chances d'en avoir un sont extrêmement ténues. Et puis, il y a aussi, pour les plus jeunes, un environnement familial, sinon défaillant, violent, qui les pousse à partir, notamment avec la question du confiage, puisque cette tradition africaine qui consiste à confier son enfant à un oncle, à un marabout, un certain nombre d'entre eux fuient ces situations familiales difficiles pour se retrouver soit une migration interne vers Conakry, soit dans un pays voisin, soit vers l'Europe.
Ce qui vous frappe alors en Guinée, c'est que l'argent investi par la communauté internationale, c'est pas pour l'éducation, pas pour les infrastructures, pour permettre à ces jeunes de vivre dans leur pays natal. L'argent investi sur les questions migratoires, c'est tout autre chose.
Effectivement, les budgets investis par l'aide au développement en Afrique de l'Ouest en général et en Guinée en particulier concernant l'éducation sont en baisse depuis plusieurs années. Et l'Union européenne, notamment à l'issue du congrès de La Valette qui a eu lieu en 2015, au sujet des questions migratoires originaires d'Afrique, il y a des millions, des centaines de millions, des milliards qui sont investis pour tenter de fixer la jeunesse africaine en Afrique. Et ça passe par la cooptation du monde des arts et de la culture. Par exemple, en Guinée, on va donner de l'argent à un groupe de rap, on va écrire une chanson, mettre le paquet dessus, et c'est une chanson sédentariste, c'est-à-dire qui incite la jeunesse à rester chez elle. On va financer des auteurs de bandes dessinées, on va financer le Magic System en Côte d'Ivoire, qui est très impliqué là-dedans. Et donc aujourd'hui, tous les bailleurs marque migration dans leur projet et c'est la garantie d'avoir effectivement des fonds européens pour déployer, développer une politique sédentariste. L'OIM, au-delà de ça, laisse croire qu'ils sont créateurs d'emplois à haute valeur ajoutée et finalement non, on va payer une moto à un jeune pour qu'il aille livrer des pizzas dans le centre-ville de Conakry. Et donc cette jeunesse continue à partir malgré les difficultés qu'elle va rencontrer sur la route.
Et ces jeunes, les protagonistes de votre livre, vous les avez retrouvés, suivis ?
Ces enfants guinéens, ils sont en France aujourd'hui. Je suis pas en contact avec l'ensemble d'entre eux, mais pour l'un d'eux, oui, il a eu son CAP de boulanger. Il a l'air très heureux. Et cette jeunesse guinéenne qui arrive en France, elle est pleine d'énergie. Et c'est une vraie ressource pour la France.
Les enfants de la Clarée est paru aux éditions Marchiani. Et tout au nord de la France, à Calais, c'est là qu'on retrouve tous ceux qui espèrent rejoindre un jour la Grande-Bretagne. 4 ans et demi après le démantèlement de la jungle de Calais, la situation des exilés sur place est toujours aussi compliquée et les traversées par bateau se multiplient, Lise Verbeck.
C'est de plus en plus difficile pour les exilés de se rendre en Angleterre, en passant par le tunnel sous la Manche ou par le port de Calais, en montant clandestinement dans un camion, car ces sites sont désormais hyper sécurisés. Alors beaucoup tentent la traversée sur des embarcations de fortune. Sur le seul mois d'avril, plus de 240 migrants ont été secourus. Parmi eux, de plus en plus de familles avec des enfants et des bébés. Des traversées qui se multiplient et ce malgré les risques. Le détroit de la Manche est l'un des plus fréquentés au monde en termes de trafic maritime, mais il y a aussi de forts courants et une basse température de l'eau. Et cela attise la convoitise des passeurs. En mars dernier, un réseau d'Afghans a été démantelé. Ils achetaient des bateaux type Zodiac et des moteurs via des petites annonces pour y embarquer les migrants au prix de 2500 à 3000 euros la traversée. En attendant de pouvoir rejoindre l'Angleterre, les exilés se retrouvent à survivre dans les bois ou des terrains abandonnés. Pyrénées, à Calais ou Grande-Synthe. Les forces de l'ordre multiplient les opérations de démantèlement de ces camps pour éviter, selon les mots de la préfecture, les points de fixation. Les associations en dénombrent quasiment tous les jours et décrivent les tentes lacérées, les couvertures confisquées, des opérations où souvent les migrants perdent les derniers effets personnels qu'il leur reste.
L'année dernière, on a compté sur la Manche plus de 9500 passages, 4 fois plus qu'en 2019. 7 personnes, dont un nourrisson, ont trouvé la mort et 3 sont toujours portées disparues. À l'occasion d'un colloque organisé par la ville du Touquet, nous avons demandé aux députés du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont, pourquoi ce port français était toujours une voie sans issue, pourquoi les migrants tentaient toujours de passer au risque de payer ce trajet de leur vie.
Il y a des conditions météorologiques qui sont peut-être un peu plus favorables qu'avant. Il y a aussi surtout un business qui s'est créé. Et que, au fur et à mesure, les passeurs qui ont, dans certains pays de départ, pignon sur rue, avec des échoppes qui vendent la traversée au Royaume-Uni, font un business, et le business prospère parce que c'est impossible de monitorer, de surveiller l'ensemble des côtes françaises. Simplement aussi, la logique derrière, c'est de se dire, pourquoi est-ce qu'ils veulent aller au Royaume-Uni ? Le Royaume-Uni processe, je crois, 5 fois moins de demandes d'asile que la France chaque année, et donc c'est pour y vivre non pas en tant que demandeur d'asile, mais principalement en tant que clandestin. Parce qu'il y a plus de facilité, parce que c'est plus facile de trouver un travail quand on est clandestin au Royaume-Uni qu'en France, c'est plus facile de trouver un logement, on y vit en communauté. Et les personnes qui traversent, par exemple les Soudanais, les Érythréens, proviennent d'anciennes colonies britanniques et donc parlent l'anglais, ne parlent pas le français ou d'autres langues européennes. Et donc tout cela mis bout à bout fait que dans tous les cas, c'est pas simplement fonction de la difficulté de la traverser par des voies non dangereuses ou moins dangereuses, c'est surtout qu'il y a ce pouvoir d'attraction du Royaume-Uni qui, en plus avec le Brexit, est sorti des accords de Dublin et donc on ne peut pas renvoyer les demandeurs d'asile ou ceux qui remplissent une demande, dans le pays de première entrée. Et donc, il y a aussi un argument marketing nouveau, malheureusement, donné aux passeurs.
Le Brexit, finalement, a créé un appel d'air.
Le Brexit a créé un appel d'air au Royaume-Uni. Je l'ai dit, on ne peut plus renvoyer, puisque sont sortis des accords de Dublin les Britanniques, les demandeurs d'asile qui ont fait une demande ailleurs en Europe ou qui ont laissé leurs empreintes, par exemple en Grèce ou en Italie, quand ils sont arrivés en Europe, puisque c'est un dispositif concret des accords de Dublin. Par ailleurs, il y a une vraie difficulté sur les regroupements familiaux, puisque le regroupement familial a été réglé par les accords de Dublin et par un amendement au Royaume-Uni qui est l'amendement Dubs, et qui a été en tout cas annoncé comme étant en fin de parcours cet amendement, avec une volonté de Priti Patel, la ministre de l'Intérieur, de revenir dessus. Et donc il n'y a aujourd'hui quasiment plus de possibilité du regroupement familial au Royaume-Uni via les voies légales. Et donc il y aura forcément de plus en plus de tentatives de jeunes, de très jeunes, de mineurs, de traverser la Manche sur les rafios.
Quelle solution vous envisagez pour éviter justement tous ces drames humains, ces morts ?
Il faut entamer un bras de fer avec les Britanniques. Et moi je le regrette, c'est la proposition que j'avais faite en tant que président et rapporteur des commissions Brexit au Parlement, d'engager un bras de fer avec le Royaume-Uni dans le cadre des accords de sortie du Royaume-Uni, les accords futurs. Certes, les accords de Touquet ne sont pas un accord européen, parce que c'est un accord bilatéral, mais on ne peut pas continuer comme cela à laisser croire que les Britanniques peuvent s'exonérer de leur responsabilité morale. Mais il faut qu'on sorte aujourd'hui de cette logique, et cette logique argent contre barbelé, hein, c'est-à-dire concrètement, les Britanniques nous donnent de l'argent, on met des barbelés, on met des caméras, on met des drones, on met des patrouilles, pour sauver des vies, certes, mais il faut aussi qu'ils prennent leur juste part, qu'aujourd'hui ils refusent de prendre.
Qu'ils accueillent des demandeurs d'asile.
Qu'ils accueillent des demandeurs d'asile, qui reprennent également les mineurs non accompagnés, qui aujourd'hui ne peuvent plus traverser en raison de la sortie des accords de Dublin, qu'ils procèdent à nouveau au regroupement familial comme s'ils pouvaient le faire lors des accords de Dublin. Mais le problème britannique, c'est qu'ils ne veulent pas examiner les situations tant que les demandeurs n'ont pas le pied au Royaume-Uni, ce qui évidemment leur fait prendre des risques, d'où ma proposition de demander l'asile au Royaume-Uni quand on est sur le continent, afin d'avoir des passages sûrs vers le Royaume-Uni. Et s'ils refusaient l'asile, que la France ou d'autres pays en Europe puissent leur proposer s'il y a besoin.
Pierre-Henri Dumont sur ce qu'il faudrait faire pour sauver les vies dans la Manche. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.